Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Je professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour et bienvenue sur Clap. Je suppose que vous êtes dans des couvertures, qu'il neige, que votre ville est remplie de décorations de Noël. Ici, chez Clap, ce n'est pas la même chose car nous avons déménagé aux Seychelles pour ce mois de décembre. Vous pouvez entendre les palmiers derrière nous qui frétillent au vent. Et nous sommes toujours sur le cycle du court-métrage avec Morane et Manon. À continuer à discuter de l'économie du court-métrage, de la production à sa diffusion.
Et voilà. Et donc, bonjour Manon, bonjour Morane. Peut-être que vous pouvez vous représenter rapidement, nous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous mangez du court-métrage.
Parce qu'on aime le cinéma dans toutes ses formes. Donc moi, je suis Manon, je travaille à l'American Cosmographe et à côté, je fais partie de l'équipe de séquences court-métrage.
Et Morane, je suis chargée de production pour une société qui s'appelle Local Production à Toulouse, donc qui produit du documentaire et du court-métrage. Et je fais également partie de l'association Séquences qui organise le festival au mois de novembre et plein d'autres choses pendant toute l'année.
Alors du coup, on a parlé un petit peu dans l'émission précédente de la production d'un film. Donc voilà, le film a été tourné, a été monté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Bah, faut qu'il passe. Faut qu'il soit vu. Le but de faire un film, c'est que les gens le voient. Donc il y a différentes manières de voir ces films. Effectivement, on pense tout de suite à la télévision qui propose assez peu de créneaux, souvent tard le soir. On vit quand même à l'ère de l'Internet, donc il y a aussi beaucoup de plateformes et beaucoup de sites qui diffusent du court-métrage, des réalisateurs qui décident de mettre leurs films en accès libre aussi. Voilà. Et bien sûr, les festivals et les salles de cinéma parfois.
Et alors, comment ça se passe pour les festivals de court-métrage? Comment vous faites vos sélections de films et au niveau de la production, est-ce que c'est vous qui envoyez les films à des festivals? Comment ça se goupille tout ça pour qu'à la fin, le public rencontre ces films?
Oui, c'est une partie du travail qui est énorme et très fastidieuse, cet envoi des films en festival, qui souvent en court-métrage est fait par les producteurs ou bien le stagiaire qui est dans la boîte de production. Soyons réalistes, c'est pas le cas chez nous, hein. Et oui, donc il y a beaucoup de festivals en France, à l'international, et c'est vrai que c'est je pense le premier lieu où les court-métrages sont vus, c'est dans ces festivals. Donc il faut inscrire le film. On en voit en fait maintenant. Avant, il fallait graver beaucoup de DVD et les envoyer partout. C'était encore plus fastidieux. Maintenant, on envoie un lien Vimeo dans un formulaire ou sur une plateforme. Il y a plein de plateformes qui existent. Et comme il y a beaucoup de festivals et qu'on ne peut pas forcément tout... viser, il faut un peu faire il y a un peu une stratégie de festival aussi à mettre en place parce qu'il y a toute une logique d'exclusivité. Il y a des festivals qui demandent une première nationale, internationale, mondiale. Donc voilà, on réfléchit un peu quand le film se termine à où est-ce qu'on va inscrire le film dans un premier temps, où est-ce qu'il va pouvoir faire ses différentes premières, et puis au fur et à mesure ensuite le film va tourner dans différents festivals.
Dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas.
Après, en ce qui concerne les festivals, la programmation, c'est un travail énorme et fastidieux. Hein.
Fait par les stagiaires aussi, du coup.
Non, fait par un comité de programmation dans notre équipe et dans la plupart des festivals. On reçoit plus de 1500 films via notre plateforme, enfin une plateforme qui s'appelle FilmFest plateforme. On va aussi dans des festivals. Nous, on va principalement au festival de Clermont-Ferrand qui a lieu au mois de février, qui est le plus gros festival du monde de court-métrage. Sous la neige aussi, comme au mois de décembre. On demande aussi des films quand on peut pas se déplacer, par exemple au Festival de Cannes dans les différentes sections. On demande des films aussi qui sont diffusés au Festival d'Annecy, au Festival de Brest, qui a lieu quelques semaines avant le nôtre, enfin, les plus gros festivals, ce qui fait que c'est souvent aussi les mêmes films qui tournent. Hein, dans l'année, il y a un best-of des meilleurs courts-métrages, entre guillemets, les meilleurs, parce que c'est ceux qui ont une plus grande visibilité et qui sont un peu les immanquables. Voilà. Et puis toutes les découvertes aussi, parce que chaque festival et chaque comité de sélection a ses propres goûts et va découvrir des petites pépites. Voilà.
Est-ce que c'est les meilleurs films qui se retrouvent en festival ?
C'est ce que je disais, entre guillemets. Pas toujours. Mais ce qui est chouette en diffusant du court-métrage, c'est qu'on peut vraiment montrer un éventail de ce qui se fait. Parce qu'on, là, à Séquence, on a diffusé cette année, rien qu'au festival, pas loin de 130 films. Donc on peut montrer de la fiction, de l'expérimental, de l'animation, du documentaire, des formes aussi un peu plus hybrides qui se rencontrent. Il y a beaucoup de documentaires animés, par exemple, selon les années aussi. Il y a des modes un peu. Voilà. Et puis nous, on a des programmes de compétition français, internationaux, mais on crée aussi des thématiques. Donc les thématiques, elles changent d'année en année. Et elles changent aussi en fonction des films qu'on reçoit. Cette année, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de films qui tournaient autour des droits civiques aux États-Unis, que ça collait aussi avec ce qui a été sorti au cinéma cette année et que ça avait du sens et qu'on pouvait construire un programme autour de cette thématique-là. Et voilà, des fois, c'est deux films qui créent l'envie d'un programme, quoi. Donc on va aller repiocher aussi dans les années précédentes, voilà, ou des films qu'on avait mis de côté, qu'on n'avait pas réussi à caler avant. Et puis là, on se dit, tiens, cette fois, on peut montrer celui-ci.
C'est vrai que de manière générale, on fonctionne au coup de cœur, hein, beaucoup. Et c'est vrai qu'aussi, il y a cette masse de films et que parfois, c'est difficile, effectivement, de... On aimerait bien pouvoir dire que notre programmation, elle mélange dans des nombres égaux, on va dire, équitables, à la fois des grosses productions ou des festivals, des films qui ont beaucoup tourné en festival, mais qui sont géniaux, et des films qu'on a débusqués, qu'on nous avons envoyés parmi les 1500 films qu'on reçoit tous les ans, sans compter ceux qu'on va voir en festival. C'est vrai que là-dedans, dans cette masse-là, avec en plus un temps de visionnage qui est finalement quand même réduit, parce qu'on s'en tient à une année, enfin moins d'une année de visionnage, mais quelques mois, mais en gros, on reste sur une production d'un an. Et du coup, bah, là-dedans, c'est sûr que c'est souvent les mêmes films qui se retrouvent parce qu'il y a un accès à ces films qui est plus facile. Après, il y a aussi le fait que, tout comme en production, il y a différents festivals qui ont différentes manières de travailler.
Différentes lignes éditoriales.
Différentes lignes éditoriales. Il y en a qui ont aussi des lignes éditoriales thématiques et puis qui ont aussi différentes... impact sur le marché du court-métrage aussi. Enfin, on a des très gros festivals qui vont montrer que de l'exclusivité et qui ne travaillent pas du tout de la même manière que des petits festivals comme il y en a beaucoup et qui vont aller chercher des films. Enfin, voilà, c'est aussi en termes de moyens, d'équipe, etc. Enfin, voilà, il y a encore aussi plein de choses différentes.
Et d'équilibre dans les programmes aussi, parce qu'il y a des films qu'on trouve très beaux, mais qui sont un peu plus fragiles ou un peu plus difficiles. Et du coup, des fois, des films aussi qui sont un peu tristes. Et on essaye de rendre les programmes vivants. Et voilà, si on passe un film un peu plus fragile, on va essayer d'en mettre un qui est plus facile d'accès, et effectivement, qui sera passé dans beaucoup de festivals et qui plairont pour sûr au public, quoi. Mais on essaye toujours d'avoir un film qui fera pas l'unanimité. Il y a des gens qui adoreront ce film et d'autres qui le détesteront.
Et pour faire un point un peu avec ce qu'on disait précédemment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas s'il y a deux types de festivals ou des objectifs différents, mais des festivals qui sont plus tournés vers le public et d'autres qui vont être pas mal tournés vers les professionnels de la profession, comme ils disent.
Et le troisième type de festival qui réussit à allier les deux. Et oui, ça, c'est quand même sûr. Assez incroyable. Quand on va, juste pour reprendre le cas de Clermont, mais quand on va à Clermont, il y a des gens qui posent une semaine de vacances pour aller... Des Clermontois qui vont rien que pour aller au festival. Et on voit des salles qui sont pleines et qui sont pleines à la fois du. Je ne sais plus combien de professionnels sont accrédités, je crois qu'il y en a quelque chose comme 9000, je ne sais plus. Enfin bref, c'est énorme. Et en même temps, ça mobilise toute la ville et il y a vraiment une cinéphilie du court-métrage qui s'est développée dans cette ville et dans la région pour venir voir du court-métrage. Ça, moi, je trouve que c'est des festivals qui réussissent un pari incroyable en faisant ça.
Donc le festival, c'est un petit peu la grosse part de la vie de diffusion d'un film en termes de rencontre avec le public et en termes de ce que ça peut apporter à l'équipe qui a fait le film pour la suite, globalement.
Complètement, c'est comme ça que les films sont découverts, remarqués, qui vont obtenir un certain prestige aussi, obtenir des prix.
Voilà, si vous aimez le court-métrage, allez dans les festivals.
Et je me posais une question aussi par rapport au web, on en parlait un petit peu plus tôt. Est-ce que le développement de toutes ces plateformes web et de formats aussi un peu spécifiques au web dans le court-métrage, enfin, on avait un format court spécifique au web, a lancé un nouveau souffle dans le court-métrage en termes de diffusion et de création, ou est-ce qu'au final, ça n'a pas eu l'effet escompté? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté?
Moi, j'ai l'impression, ces dernières années, qu'il y a beaucoup, beaucoup de plateformes qui se sont créées avec beaucoup d'ambition, mais qui ont du mal à...
Le modèle économique est quand même encore très fragile.
C'est dur d'être, de trouver des plateformes viables et qui durent plusieurs années.
Et après, il y a les plateformes, qui sont issues des diffuseurs traditionnels, donc des chaînes de télévision, et où là, c'est un autre modèle économique, et que là, pour répondre aussi à la question par un autre côté, c'est qu'en termes de financement, on peut se dire, tiens, il y a tout un nouveau marché sur le web, etc., ça va être des nouveaux financements, sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça, les financements, ça, à part les diffuseurs traditionnels qui, effectivement, investissent dans le web, etc., et du coup, vont déclencher des nouveaux financements propres à ces plateformes. Et au CNC, on a des nouveaux financements propres aussi au web. Mais dans l'ensemble, ça n'ouvre pas tout d'un coup plein de portes pour le financement du court-métrage. Enfin, ça reste quand même très modeste. Et après, c'est peut-être plus au niveau de... Effectivement, de l'accès au public, de la diffusion, il y a souvent des plateformes qui jouent un peu sur le fait qu'ils vont prolonger en fait de ce qui peut être vu en festival, par exemple. Donc là où souvent les spectateurs de festival peuvent être frustrés en se disant où est-ce qu'on peut retrouver ce film, ça nous arrive quasiment à chaque sortie de séance. Des gens qui viennent nous voir pour nous demander où est-ce que je peux le montrer à quelqu'un. Et bien souvent, on ne peut pas vraiment répondre à cette question, parce que bien souvent, à part le festival, y a rarement un DVD ou parfois il y a effectivement une diffusion VOD, mais souvent, voilà, il y a des plateformes qui s'emparent de ça et qui du coup vont profiter d'un événement, un festival, pour aussi attirer un public sur leur plateforme, et ça donne aussi, ça prolonge la vie du film derrière sur le web. Mais voilà, c'est des modèles économiques qui sont liés à tout ce qui est VOD, SVOD, et qui sont quand même fragiles, à part les grosses machines.
Il y a pas mal de courts-métrages aussi sur Netflix, en parlant de plateforme. Alors je me demande qui les regarde.
Tu fais bien la transition avec les grosses machines.
Ouais, ouais, ouais. Mais je me demande qui les regarde. Mais ils sont, il y a pas de catégorie courts-métrages. On les retrouve dans les nouveaux contenus, dans des genres de films. Et on clique dessus et on se rend compte que ça dure 21 minutes. On se demande comment ça est arrivé sur Netflix. Mais ouais, est-ce que c'est les gens qui décident de les vendre? Mais c'est étonnant de la part de Netflix, et ça arrive assez régulièrement.
Et en termes de modèle économique, justement, des festivals, comment ça marche? On a parlé un petit peu de la production la dernière fois, comment ils arrivaient à faire en sorte de produire le film. Qu'est-ce qui se fait pour les festivals pour arriver à continuer à vivre et à proposer des films au public?
Dans le cadre de séquences courts-métrages, on a des aides de la région, du département et de la ville. Il peut arriver aussi qu'on ait des subventions d'écoles ou d'autres partenariats. On vend aussi des programmes tout au long de l'année dans les salles et puis à des festivals aussi qui ne font pas forcément du cinéma mais qui ont envie de montrer autre chose. C'est le cas à Séquence, là, on l'a fait avec Polar du Sud, avec Le Printemps du Rire. Voilà.
C'est un financement, en tout cas pour Séquence et pour beaucoup de festivals, qui est essentiellement public. Oui. Après, si on part sur des plus grosses structures, il y a des partenariats qui sont faits avec des structures privées, mais ça va peut-être plus être de l'ordre des échanges de partenariats du type des prix. Y a des festivals où des structures, des entreprises vont mettre de l'argent pour décerner un prix au meilleur court-métrage de tel ou tel festival. Il y a pas mal de modèles économiques aussi à ce niveau-là. C'est vrai que souvent, ça va en France, ça repose beaucoup sur les subventions.
Et alors, parmi tous ces films, parce que vous dites que vous en recevez 1500, et finalement, il y en a énormément qui sont produits tous les ans. Est-ce qu'il y a un public vraiment pour autant de films?
On peut aussi se poser la question pour le long métrage, hein, du coup. C'est... Effectivement, chaque film ne rencontre pas son public. Ça, c'est une évidence.
Mais peut-être que aussi sur ce, effectivement, ça se pose pour le long métrage, pour beaucoup de, enfin, actuellement, il y a une production qui est énorme avec des modèles de production très variés. Et c'est clair que par rapport à la diffusion, enfin c'est sûr qu'il y a un surnombre et une surproduction. Après, pour le court-métrage, par rapport, pour revenir à ces 1500 films, c'est vrai que il y a aussi, on part du film très amateur fait à la maison avec vraiment pas grand-chose, parfois, des choses qu'on reçoit. C'est aussi, ça va aussi avec un accès plus facile aussi aux inscriptions, je pense, des festivals. Avant, ce que je disais tout à l'heure, fallait un DVD pour envoyer un film, fallait faire mettre dans une enveloppe, mettre un timbre, fallait l'envoyer par la poste, etc. Imprimer un formulaire, le remplir, tout ça. Là, maintenant, on a ces plateformes qui permettent d'inscrire un film à plein de festivals en même temps. Et il y a quelque chose de plus facile, je pense, là-dedans. Nous, on reçoit beaucoup plus de films. Maintenant, tu me corriges, mais par rapport à...
Je pense qu'on en reçoit plus, mais on en a toujours reçu énormément. Mais il y a effectivement le fait qu'on puisse inscrire nos films plus facilement, mais aussi on a beaucoup plus facilement accès au matériel. Enfin, sans parler des gens qui font des films avec des téléphones, mais ça reste un métier de faire des films. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, tiens, j'ai une caméra ou mon appareil photo fait caméra, bah, je vais faire un film.
Donc c'est vrai que dans ce qu'on reçoit, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut écrémer aussi, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois, tu as des pépites, des perles qui sortent de ça. Mais finalement... Il arrive aussi qu'on se retrouve pour certains programmes à vraiment chercher des films. Enfin, c'est un peu paradoxal finalement. On se dit sur 1500, c'est quand même hyper facile de trouver 150 films à mettre dans une programmation de festival. Et en fait, parfois, il y a des fois où on se casse un peu la tête parce qu'on est sur tel programme et on se dit mince, il nous reste une place, là ça va pas, et qu'est-ce qu'on met? On retourne dans nos archives, dans ce qu'on a visionné, on réfléchit, enfin voilà, c'est paradoxalement
ouais, on organise en fait des présélections pendant l'année, donc pour montrer un maximum de productions françaises ou des coproductions. Et pour faire un programme, on va dire, d'une heure vingt à une heure et demie avec 6, 7 ou 8 films, des fois, il faut voir plus de 250 films, quoi. Mm-hmm.
Voilà. Et alors, moi je me demandais, parce que quand j'étais enfant dans les années 50, il y avait toujours un court-métrage avant le long-métrage en cinéma. Pourquoi ça s'est perdu, ça ? Pourquoi les cinémas ils diffusent plus des courts-métrages de temps en temps dans des séances de long ? Parce que je me dis, en tant que spectateur de quand je vais voir un film au cinéma, ça me plairait bien qu'avant ou après le film, il y a un petit objet de 10 minutes qui soit sur la même thématique, où il y a un lien. Et vu toute la production qui se fait dans ce domaine-là, j'ai l'impression qu'il y aurait possibilité de créer ce genre de partenariat. Je me demande pourquoi ça n'existe pas.
Ça existe, en fait.
Enfin, ça existe, peu,
ça existe. Au niveau national, il y a le RADI, qui a changé de nom cette année, qui s'appelle l'Extra Court. C'est assez onéreux. Pour passer, je crois, 12 films dans l'année, c'est pas loin de 1000 euros. On sait que du coup, on récupère rien en salle sur un ticket de cinéma là-dessus. Donc tous les cinémas ne peuvent pas se permettre de le faire. Il y a aussi que ça rallonge les séances. Donc on reçoit beaucoup de courts-métrages, mais dans les cinémas, on reçoit énormément de longs-métrages aussi. Et si on veut en passer beaucoup, bah, du coup... Voilà, les films sont aussi de plus en plus longs. Si on a des créneaux pour une séance qui dure 2h30, et ben, on passe de moins en moins de films en salle aussi. Donc voilà, c'est vraiment aussi des choix dans des cinémas et des lignes éditoriales. Mais il y en a assez peu qui le font. Et c'est pour ça aussi que les salles se tournent et sont contents d'accueillir des festivals, parce que c'est un moment dans l'année où ils vont pouvoir en passer. Nous, on est principalement à l'ABC. Et on fait des séances toute l'année là-bas. Voilà. Que dire après ? C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de courts-métrages pour le jeune public, des programmes de courts-métrages, voilà, où il y a 3, 5, 8 films. Ça marche hyper bien. Donc j'espère que ces jeunes spectateurs auront plus de facilité à voir du court et à avoir envie d'en voir. Il y a aussi... depuis l'année dernière, SoFilm, qui a lancé des thématiques. Donc, l'année dernière, c'était sur le film fantastique. Donc, ils ont lancé un appel à projet. Ils ont reçu plein de scénarios. Et puis, ils en ont sélectionné quelques-uns. Donc, c'est des films qui ont été produits pour être diffusés principalement dans ce cadre-là, pour pouvoir être distribués dans les salles. Et ces films peuvent aussi, bien sûr, après concourir dans des festivals. Cette année, ils ont remis le couvert avec la comédie musicale. Donc, c'est plutôt chouette qu'il y ait ce type d'initiative aussi. Voilà. Après, je pense que les salles sont frileuses, parce qu'il y a de temps en temps l'agence du court-métrage qui distribue des programmes de cours. Mais honnêtement, même s'ils choisissent une date de sortie nationale sur le modèle des longs-métrages, il n'y a pas grand monde qui ose passer ces films, quoi. Que ce soit des courts ou des moyens-métrages. Cette année, il y a eu un film avec deux courts-métrages qui s'appelait Les films de l'été, donc ça aurait pu être hyper vendeur. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui ont décidé de le passer, quoi. Même s'il y a des gens connus dedans, enfin... Voilà, on a toujours l'impression que c'est moins vendeur, alors que c'est aussi le travail de la salle de donner envie aux spectateurs de venir voir ces films-là.
Ouais, on arrive au bout du temps, alors, mais je pose juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez la sensation que, globalement, il y a un public pour le court-métrage
Ah bah oui,
on en est convaincus, c'est pour ça qu'on fait ce festival aussi, quoi. Au-delà de prendre un immense plaisir à le faire dans l'équipe et à créer des moments autour des films pour se retrouver et pour discuter.
On fait des salles pleines à notre échelle, mais tout à l'heure on parlait de Clermont avec ces salles pleines. Enfin oui, c'est clair que le public existe. Après, l'accès du public au court-métrage, c'est... Voilà, ça repose sur des structures, sur des envies, sur des... Mais c'est sûr qu'on rencontre ce public. Et aussi, on prend beaucoup de plaisir à avoir ces premiers spectateurs de courts-métrages et à avoir leurs réactions. On essaye d'aller de plus en plus vers des publics plus jeunes aussi que nos publics habituels, qui sont les publics de la salle de cinéma d'art et d'essai, en gros. Et c'est vrai que, par exemple, on participe à la semaine de l'étudiant. Ça fait venir des étudiants... cette tranche d'âge qui est beaucoup plus va regarder des formats courts sur son portable que des courts-métrages en salle. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à avoir ces nouveaux spectateurs parce qu'ils découvrent aussi ces formats, sa richesse.
Il y a aussi des spectateurs qui sont très fidèles et qui suivent l'œuvre de réalisateurs et qui sont hyper contents que telle réalisatrice sorte un nouveau film. Et voilà, nous aussi, on prend un plaisir immense à suivre des réalisateurs. Là, on a reçu le mois dernier deux réalisateurs qui ont fait leur troisième court-métrage ensemble, qui sont en train de produire leur premier long-métrage. Et à chaque fois, c'est un bonheur de voir leur manière de raconter des histoires et de les mettre en image. C'est Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Et ouais, ça c'est chouette. Et moi-même, je le vois en bossant en salle. Enfin, il y a énormément de premiers films qui sortent chaque année. Et régulièrement, c'est des réalisateurs que j'ai connus via le format court d'abord. Et souvent, je me retrouve à dire aux gens « Allez voir ce film, il avait fait un super court-métrage avant. » Et ça donne aussi envie aux gens d'aller chercher ces films-là. Mmh. Il y a eu un film cette année qui est sorti qui s'appelait « Jusqu'à la garde » qui avait été d'abord un court-métrage, parce qu'il y a aussi ça, des courts-métrages qui se transforment ensuite en long. Ce court-métrage a eu une autre vie après la sortie du long, parce que les gens ont eu envie de le voir.
Ok. Voilà.
Ouais, fallait voir du court-métrage.
Ouais, c'est génial le court-métrage. C'est fabuleux.
Et même si séquence s'est passée, on fait plein de projections pendant toute l'année, dès le mois de mars avec la fête du court-métrage et plein d'autres choses.
Voilà, et vous pouvez retrouver les infos de séquence sur le site internet
www.séquence-court.com.
Voilà.
Et donc c'est la fin de cette émission de Clap. Nous aussi on fait du court-métrage qu'on diffuse avec Kaleidos Film en qui nous bouffe tous les mois. Il y en aura une ce mois-ci, dont je ne connais pas la date encore, mais qu'on va ajouter à la fin de cette émission.
Voilà.
Super asso. Nous, on a fait des projections aussi avec eux.
Et nous nous retrouvons dans deux semaines pour discuter toujours du court-métrage, mais du court-métrage d'Indien, du court-métrage libre fait avec des bouts de ficelle et qui le revendique, peut-être.
Voilà. Allez, à bientôt. Merci.
Merci, au revoir. Merci.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence!
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Et voilà, c'était la 18e émission de Clap. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, la Kinobouffe de décembre s'est déroulée le jeudi 6 décembre. Donc on vous donne rendez-vous pour la suivante, où on reprend nos bonnes habitudes du troisième jeudi du mois. Ce sera donc le 17 janvier à La Chapelle, 36 rue Casanova. Et voilà, toujours vers 18h30, 19h.